Suivez, Souza.
Comme d'habitude, on a le plaisir d'être ensemble avec Souza, qui est bien discipliné. Bonjour.
Bonjour, Omi. Bonjour, Xavier. Bonjour à tous nos auditeurs.
Bonjour, Souza.
Alors, cette semaine, j'avais envie de vous parler de la société coréenne, et plus particulièrement des règles et conventions qui régissent les relations entre les individus. Car pour un étranger qui ne connaît pas la Corée, il est parfois surprenant de voir à quel point la société coréenne est codifiée, que ce soit au sein de la famille, de l'entreprise ou dans la vie sociale. Les Coréens répondent en effet à des codes de conduite et des conventions sociales très strictes, au point que l'on peut se demander d'où cela vient-il. Alors, les codes de conduite viennent de très loin. Si j'ose dire, ça remonte en effet au 6e siècle, lorsque le confucianisme est apparu pour la première fois en Corée. Alors je rassure tout de suite Oumi, qui a eu très peur quand je lui ai dit que mon prochain sujet allait être le confucianisme dans la société contemporaine coréenne. Et je la comprends, ça a l'air un peu pompeux comme ça. Alors je ne vais pas vous faire un cours magistral sur cette doctrine morale d'origine chinoise, mais je vais simplement essayer de vous expliquer en quoi elle influence encore beaucoup aujourd'hui la société coréenne. Je dirais même plus, la société coréenne en est totalement pétrie.
Oui, c'est vrai que c'est important pour mieux comprendre cette fameuse société coréenne.
Voilà, alors pour cela, je vais quand même rapidement resituer les choses en parlant un peu de l'origine et du développement du confucianisme en Corée.
Non, mais tu as raison, Souza. Nos auditeurs seront sûrement curieux d'en apprendre un peu plus sur les Coréens et les rapports qu'ils entretiennent entre eux.
Oui, je pense que c'est vraiment intéressant et important d'aborder ce sujet dans notre émission. Alors, le confucianisme est apparu en Corée au 6e siècle grâce à l'introduction des caractères chinois et a coexisté avec le bouddhisme durant 6 siècles. Il n'y a pas eu de problème majeur d'ailleurs, puisque le bouddhisme touchait plus particulièrement la population rurale, tandis que la pensée philosophique confucéenne était plus du ressort des lettrés. C'est ensuite seulement que le néo-confucianisme s'est implanté durablement et à la fin du 14e siècle, il est devenu l'idéologie officielle de la dynastie Joseon, et ce jusqu'au début du 20e siècle. C'est avec lui que sont apparus les systèmes d'éducation et d'organisation civile, les rituels, les règles qui perdurent encore aujourd'hui, même si en 1910, le christianisme est devenu prépondérant et le confucianisme a perdu un peu de son influence. Alors, désolé encore pour la digression encyclopédique, mais on peut préciser que Confucius était convaincu que la réforme de la collectivité n'était possible qu'à travers celle de la famille et de l'individu. C'est pour cette raison que le confucianisme décrit un idéal d'ordre dans les relations humaines. C'est l'harmonie sociale qui est visée. Ainsi, chacun doit respecter certains principes. Alors le sujet vis-à-vis du roi, c'est le principe de pouvoir, les citoyens entre eux, c'est le principe de loyauté, et au sein de la famille, les enfants vis-à-vis des parents, le principe de la piété filiale, les cadets à l'égard des aînés, la femme envers son mari, le principe de respect. Voilà, donc on comprend mieux aujourd'hui ce qui est à l'origine des rapports humains dans la société coréenne.
Oui, enfin on comprend mieux, en tout cas c'est compliqué.
Quand j'étais écolière, on nous a forcé à apprendre par cœur tous ces principes.
C'est vrai. Oui, alors j'arrête là les définitions encyclopédiques pour revenir à notre sujet, la société coréenne d'aujourd'hui.
Oui, non mais tu avais raison, parce que c'est important d'avoir ce petit éclairage, puis on comprend mieux pourquoi les Coréens ont plusieurs rôles à assumer dans la société en fonction de leur statut social.
Oui, c'est beaucoup de devoirs et de responsabilités que l'on doit remplir.
Oui, alors commençons par la famille coréenne. Au-delà du principe de respect, dans une famille coréenne, chaque membre a une place et un rôle bien précis à jouer. Par exemple, les grands-parents sont très importants car ils sont les aînés qui détiennent le savoir. On leur doit respect et obéissance. Par extension, après le mariage, l'épouse doit s'occuper des parents de son mari.
Oui, et si elle a épousé le fils aîné de la famille, c'est à elle que revient également la lourde tâche d'accueillir toute la belle famille et d'organiser les préparatifs pour honorer les ancêtres de sa belle famille lors du nouvel an lunaire. Tiens, je parle de mon sort.
Alors le père, lui, doit assumer financièrement sa famille, tandis que la mère est plus à la maison et s'occupe de l'éducation des enfants. Même si les choses ont un peu changé aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des femmes arrêter leur carrière lorsqu'elles commencent à avoir des enfants. Un des termes coréens d'ailleurs pour désigner l'épouse, année, signifie celle de l'intérieur, ce qui est assez significatif à cet égard.
En un autre terme, jipsaram, la personne qui reste à la maison.
Ensuite, il y a le principe de piété filiale. Il se traduit par un devoir d'obéissance des enfants envers leurs parents et une obligation de s'occuper d'eux une fois devenus adultes.
Oui, je pense que c'est une bonne chose. Les Coréens ne comprennent pas d'ailleurs le nombre important des maisons de retraite en France, par exemple.
Oui, c'est vrai que pour eux, c'est inconcevable.
D'autant plus que les études coûtent tellement cher aux parents que c'est en juste retour des choses qu'une fois adultes, les enfants subviennent aux besoins de leurs parents devenus âgés.
Oui, le respect aussi se traduit même dans la parole avec les termes honorifiques que l'on utilise dans la langue coréenne pour les personnes à qui on doit le respect, de par leur âge, leur position dans la famille ou leur statut social. On en a déjà parlé.
Voilà, et même après la mort des aînés, des parents, on perpétue ce principe de respect des aînés à travers le culte des ancêtres, dont on a aussi déjà parlé.
Effectivement, lors des cérémonies commémoratives annuelles, à la date d'anniversaire du défunt, et au fait de solal et tout ça, par exemple.
Oui, alors ce principe de respect des aînés se retrouve partout dans la société. Par exemple, pour les amis, on n'appelle pas les personnes plus âgées que soi par leur prénom, mais on dit grand frère ou grande sœur. De même, les personnes plus âgées sont appelées grand-père ou grand-mère.
Oui, et les Coréens se comportent avec les autres comme avec les membres de leur famille.
Oui, ce qui assure une certaine cohésion sociale.
Oui, alors les choses ont évolué et les familles ne vivent plus toutes sous le même toit maintenant, pour des raisons professionnelles et pratiques. Les enfants partent souvent vivre en ville et retournent visiter leur famille au moment des fêtes.
Oui, et puis avec l'évolution des droits de la femme et le coût de la vie de plus en plus cher, notamment l'éducation, les valeurs confucéennes se perdent peu à peu.
Oui, l'éducation reste très marquée par le confucianisme. C'est en effet par elle qu'est acquise la position sociale et la fortune.
Oui, alors actuellement, l'éducation reste cruciale en Corée, plus qu'ailleurs. Les parents se sacrifient pour l'éducation de leurs enfants et les enfants font tout pour réussir à l'école. Voilà. Et puis aussi, au niveau de l'entreprise, les relations employeur-employé sont très codifiées. Le respect de la hiérarchie est très important. Les employés du bas travaillent sans répit et dans une totale soumission au chef. Certains ont trouvé là une explication au miracle coréen. Mais il y a un revers de la médaille, car parfois on regrette un manque d'esprit critique et de créativité dans les entreprises coréennes, ou même un système un peu lourd qui manque d'efficacité.
Oui, et puis l'appartenance au groupe est très importante en Corée, que ce soit la famille, les camarades de classe, les collègues de bureau, l'entreprise dans laquelle on travaille, ou même la nation.
Oui, et ce système de groupe est parfois difficile pour les étrangers, car il n'est pas facile de rentrer dans un groupe. Il faut y être introduit, mais même avec cela, on n'a pas de vécu en commun. Donc l'intégration est difficile pour un étranger, malgré la politesse et la gentillesse avérée des Coréens. Il est facile de nouer des contacts, mais très difficile d'approfondir les relations. Et puis, il y a la question de la face.
Il s'agit de jaemyeon en coréen, qui veut dire honneur, réputation.
On ne doit pas faire perdre la face à l'autre, car ça met en péril la communication, ou même ça met un terme directement à toute relation possible avec la personne. Ce qui explique la politesse des Coréens et le fait qu'ils évitent à tout prix le conflit. Un des aspects positifs de la culture coréenne, hormis le respect des aînés dont on a parlé, est que la Corée est le pays avec l'un des taux de criminalité le plus bas au monde. Par exemple, moi qui suis une femme en Corée, je n'ai jamais eu le moindre problème, je ne suis jamais sentie en insécurité. Le délit ici n'est pas seulement un délit face à la loi et à la morale, mais il entraîne le déshonneur de toute la famille de celui qui a commis le délit. Et ça, c'est ce qui peut arriver de pire à un Coréen. Voilà. Alors, le temps passe. Il y aurait encore tellement de choses à dire sur ce sujet.
Et ce qui est important, c'est ce qu'on doit passer à l'acte, tout ce qui est acquis. Les principes sont les principes. Non, il faut les pratiquer, d'accord, dans notre vie quotidienne.
Bon, alors on se quitte.
Bon, on va se retrouver la semaine prochaine.
Oui, alors je vous dis à la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir.
Merci, au revoir. C'est un sujet passionnant et tellement riche qu'il faudrait consacrer une émission entière de Suivez Suzza pour chacun des thèmes qu'elle a abordés.
C'est vrai que ce confucianisme, ou plutôt néo-confucianisme à la coréenne, est essentiel à connaître pour essayer de mieux comprendre les Coréens.
Mais ces relations entre les Coréens eux-mêmes, selon leur sexe, leur âge, leur position dans la famille ou dans la société, est très particulière et mérite que l'on s'y attarde. Je pense que la structure du système entier de la société coréenne repose sur ce système extrêmement efficace.
Tu penses que ce n'est pas au contraire l'un des points faibles de la Corée d'être toujours obligé de respecter ces règles qui sont très lourdes?
Au contraire, je pense que grâce à ce système néo-confucéen, chacun a sa place dans la société, qui bien sûr évolue avec le temps, mais personne n'est mis de côté. Nous sommes disciples et puis maîtres, enfants et puis parents. La roue tourne et tout est lié.
C'est au contraire la force de la Corée qui lui a permis en 50 ans de passer d'un des 10 pays les plus pauvres de la planète au top 10 des pays les plus riches. En conclusion, Xavier,
oui, je pense que nous avons beaucoup à apprendre du pays du matin clair.
Toute la Corée du Sud à portée de clic sur world.kbs.co.kr/french sans les 3 W devant.